Bonsoir à tous. Un hommage très fort a été rendu aujourd'hui au cardinal Lustiger, juif converti très impliqué dans le dialogue interreligieux. Un mémorial paysager lui est dédié au monastère bénédictin d'Abou Gosh près de Jérusalem. Benjamin Rosier a assisté à son inauguration depuis Israël, correspondance dans un instant. Les 300 demandeurs d'asile kosovars et albanais qui campent sous un pont à Lyon vont être expulsés. Décision du tribunal de grande instance cet après-midi, on y revient dans ce journal. Nouvelle journée de tension en Bretagne, sur le point d'être licenciés, les salariés de GAD n'en peuvent plus. Ils tentent le tout pour le tout en occupant l'abattoir de Josselin dans le Morbihan. Vous entendrez l'un d'eux dans cette édition. Et puis climat très tendu également en Tunisie, alors que devait s'ouvrir aujourd'hui un grand dialogue national. Des affrontements ont éclaté dans l'après-midi dans le centre-ouest du pays. Le mémorial en hommage au cardinal Aaron Jean-Marie Lustiger a été inauguré aujourd'hui en Israël. Installé dans le monastère bénédictin d'Abou Gosh près de Jérusalem, il a été conçu comme un lieu de méditation et de réflexion, saluant la pensée et l'œuvre de l'ancien archevêque de Paris. L'initiative en revient au Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Né juif, Jean-Marie Lustiger a demandé le baptême à 14 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce double héritage a façonné l'homme et son action. Plus tard, le pape Jean-Paul II en a fait son conseiller spécial pour le rapprochement de la communauté juive et du Vatican. Invité par le grand rabbinat d'Israël, une délégation française de 150 chrétiens et juifs a fait le déplacement pour honorer aujourd'hui sa mémoire. Benjamin Rosier était sur place et il est avec nous en direct depuis Jérusalem. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Élise.
L'inauguration de ce mémorial était, j'imagine, empreinte d'un grand recueillement.
Alors c'est d'abord, Élise, préparé par une messe célébrée dans le monastère des Bénédictines du Mont des Oliviers, où le cardinal Jean-Marie Lustiger aimait se rendre, que les membres de cette délégation française ont ensuite découvert dans la matinée la stèle du mémorial de l'ancien archevêque de Paris au cœur des magnifiques jardins du monastère d'Abou Gosh. Un mémorial fait de chemins où s'écoule de l'eau, lieu de méditation, lieu de silence. Là, se sont succédé plusieurs personnalités responsables religieux et politiques, parfois de grands amis du cardinal Lustiger. Tous ont salué un artisan infatigable du rapprochement de l'Église et du monde juif à la suite de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II. Un message adressé par la secrétaire d'État du Vatican au nom du pape François, lu par le nonce apostolique, Monseigneur Lazzarato, souhaite un message où le Vatican dit souhaiter que ce mémorial soit signe qui aide les croyants à redécouvrir la valeur profonde de la réconciliation et de la fraternité entre tous les enfants de Dieu. Puis l'ancien président du CRIF, Richard Prasquier, a rappelé avec émotion comment le cardinal s'était défini comme une provocation vivante, comment Aaron Jean-Marie Lustiger, le juif converti, a interpellé très fortement la communauté juive, n'étant pas toujours compris, et comment finalement le cardinal fut reconnu pour son grand respect dans son dialogue avec le monde juif. Le président de l'État d'Israël, enfin, a tenu à adresser un message, lu également pour l'occasion, dans lequel Shimon Peres rappelle le rôle clé du cardinal Lustiger dans l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et le Vatican, et de conclure, béni soit sa mémoire. À Jérusalem, Benjamin Rosier, RCF.
Merci Benjamin. Et à l'issue de cette inauguration, l'actuel archevêque de Paris, le cardinal André 23, a prononcé une bénédiction du lieu de ce mémorial.
Dieu de nos pères, éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce aujourd'hui pour tous ceux qui œuvrent à mieux se connaître, à faire tomber les murs de l'ignorance et de la haine. Nous te rendons grâce pour ceux qui ont eu l'initiative de perpétuer par cette création la mémoire de ton serviteur Aaron Jean-Marie Lustiger. Bénis ce lieu, qu'il soit un lieu de grâce et de paix. Bénis la communauté qui en a la charge. Bénis tous ceux qui viendront y méditer, juifs, chrétiens ou musulmans. Que leur cœur s'ouvre à l'accueil de chacun dans une fraternité renouvelée pour qu'advienne un règne de paix.
Le cardinal archevêque de Paris, Mgr André XXIII, et le cardinal archevêque de Bordeaux, Mgr Jean-Pierre Ricard, accompagnent cette délégation qui quittera la Terre Sainte vendredi. Le pape François a suspendu aujourd'hui le très dépensier évêque de Limbourg en Allemagne, surnommé l'évêque de luxe. Il est sous le coup d'une polémique depuis plusieurs jours sur les coûts de la maison diocésaine qu'il a fait construire. Son montant est passé de 5,5 millions à au moins 31 millions. Une commission a été nommée par l'Église allemande pour enquêter sur les dépenses de l'évêché. La justice ordonne l'expulsion du campement de 300 demandeurs d'asile, dont une centaine d'enfants. Ils sont installés depuis juillet dernier dans des tentes de fortune sous un pont d'autoroute à Lyon. Le tribunal de grande instance a donc donné raison à la communauté urbaine. Le campement devra être évacué sans délai, avec obligation de reloger les Albanais et les Kosovars. Ce sera probablement sur un terrain vague à Oulin. Alors est-il possible de reloger si vite autant de personnes? Réponse de Messaouda Hadjab, directrice accueil Asile Forum Réfugiés.
Aujourd'hui, comme ça, sans délai, c'est pas possible, puisque nous sommes à la recherche de solutions, hein, puisque nous avons un flux important d'arrivées dans le Rhône et on n'arrive pas à faire face à la demande d'hébergement. Donc, les familles qui étaient sous le pont, les familles avec enfants et mineurs, étaient connues, puisque certaines sont rentrées, d'autres sont arrivées. Donc, on est sur des délais d'attente de 2 mois pour entrer dans un dispositif hôtel, qui aujourd'hui, pour rappel, on a 1200 demandeurs d'asile à l'hôtel.
Messaouda Hadjab, interrogé par RCF Lyon. Jean-François Copé rêve d'une France étriquée. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, ce matin à l'issue du Conseil des ministres, suite à l'affaire Leonarda. Le président de l'UMP a annoncé hier que son parti présenterait d'ici la fin de l'année une proposition de réforme du droit du sol prévoyant la fin de l'acquisition automatique de la nationalité pour les enfants nés en France de parents étrangers. Une nouvelle journée sous haute tension en Bretagne. L'abattoir de Gade à Josselin dans le Morbihan est bloqué depuis hier par les salariés d'un autre site, celui de Lampol dans le Finistère, qui va être fermé. Ce matin, les CRS ont évacué les manifestants. Certains salariés ont été traînés au sol. Désespérés, ils tentent le tout pour le tout, sur le point d'être licenciés. Ils essaient de négocier leur prime de départ. Écoutez ce témoignage de Philippe Porcher chez Gade à Lampol Guillemillot pendant 9 ans.
Ça fait trois semaines à moi que c'est dur. Et on a voulu venir aux racines parce qu'on n'est pas écouté comme d'habitude. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est pas normal les primes qu'on veut nous donner. Quoi. C'est dérisoire. C'est un métier très dur. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont cassés physiquement et tout. Il y en a, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Ce qu'on leur donne, c'est lamentable. On nous a envoyé donc des lettres de reclassement, des premières lettres de reclassement. Et on nous proposait d'aller travailler en Hongrie ou en Roumanie. Donc c'est pas normal quand même, c'est pas normal. Bon, on va se battre jusqu'au bout et puis voilà, et puis c'est tout.
Des propos recueillis par Émilie Denizet de RCF Morbihan. Cet après-midi, une cinquantaine de Finistériens attendaient devant le site de Josselin les résultats d'une réunion à Quimper en présence du principal actionnaire et du préfet. Autre mauvaise nouvelle pour l'emploi, BASF va supprimer 650 postes, dont 140 en Alsace, annonce faite aujourd'hui par le géant mondial de la chimie. Ce n'est pas une surprise, les chiffres du chômage ne seront pas bons pour le mois de septembre, c'est ce qu'indique Michel Sapin, le ministre du Travail. Ces chiffres seront publié demain. Après le bug de l'opérateur SFR qui a augmenté la baisse du chômage en août, septembre va au contraire apparaître comme un mauvais mois pour l'emploi. Les députés européens ont refusé de voter hier un texte d'une portée symbolique mais qui heurtait les convictions de catholiques et défenseurs de la famille. Rédigé par l'élue socialiste portugaise Edith Estrela, il a finalement été renvoyé devant la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres qui devra en présenter une nouvelle mouture. Écoutez la réaction de Johanna Touzel, porte-parole de la COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne.
Ce n'est pas un rapport qui a trait à un projet législatif de la Commission européenne. C'est juste une initiative du Parlement européen sur un sujet où l'Union européenne n'a pas de compétences directement, la santé reproductive et l'ambiguïté de cette expression qui peut vouloir dire aussi avortement dans certains cas. Et donc la COMECE a tenu à préciser que l'avortement ne faisait pas partie des compétences de l'Union européenne et que par conséquent, un tel rapport d'initiative pouvait troubler les esprits des citoyens européens, surtout en vue des prochaines élections européennes. Donc on a voulu rappeler, nous, à la COMECE, qu'il appartient aux États membres de décider si l'avortement est légal ou non, que c'est un sujet éthique grave et que cette décision doit revenir aux États membres et aux élus nationaux. Le rapport est maintenant renvoyé en commission et il est possible qu'il ne soit pas réexaminé d'ici la fin de la législature.
Johanna Touzel, porte-parole de la COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne. Elle ajoute que ce rapport d'initiative du Parlement européen pourrait peut-être aussi être enterré. La Tunisie attend toujours une promesse de départ du gouvernement islamiste au pouvoir et opposant devait lancer aujourd'hui des négociations pour résoudre la crise politique dans laquelle le pays est plongé. Mais avant de lancer son dialogue national, le Premier ministre devait annoncer la démission de son gouvernement. Elle est toujours attendue ce soir. Et le climat se tend. 7 gendarmes tunisiens ont été tués dans le centre-ouest du pays dans l'après-midi, dans des affrontements avec un groupe armé. Alors malgré ces difficultés, certains observateurs ont un regard bienveillant sur l'évolution de la Tunisie. C'est le cas de Kader Abderrahim, directeur éditorial au Huffington Post Maghreb. Il évoque les ressources civiques des Tunisiens.
C'est un pays qui a les moyens et les ressources de construire et de parvenir à bâtir un État démocratique et progressivement de faire partager la culture démocratique qui est absolument indispensable entre tous les Tunisiens. Et progressivement, je pense que c'est un pays qui va avancer assez vite. Je reste beaucoup plus réservé sur le personnel politique qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et je vois que dans la société, notamment les ONG, les associations, les femmes, les policiers, enfin tout le monde se mobilise pour tenter de faire entendre sa voix et même pour participer au débat. Il y a énormément de propositions qui émergent de la société et pas des partis politiques.
On termine ce journal sur une note un peu plus légère avec un baptême royal célébré aujourd'hui à Londres, celui du prince George, le fils de William et Kate, promis au trône d'Angleterre. La cérémonie s'est déroulée dans la chapelle royale du palais Saint-James en présence d'une vingtaine d'invités seulement. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information sur RCF demain matin, 6h30.